Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une femme qui parle sans langue de bois, qui est entière, qui sait ce qu'elle veut, comment elle le veut et surtout ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle n'est pas apte à accepter. En tout cas, sans langue de bois, elle nous raconte un volet très intime de sa vie, de femme d'aujourd'hui.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lalla Sana Rouati, bonjour, merci d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie que Lalla Kisbahti.
Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Alors Lalla Sana, une grande partie de votre vie est consacrée à vos étudiants, n'est-ce pas ?
Une partie à la recherche, une partie à mes étudiants et une partie au voyage, à la découverte du monde.
Une partie à vous-même.
Et à moi-même, bien sûr.
Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même à travers votre voyage dans la vie et à travers vos différents voyages et vos différentes expéditions ?
Je n'ai pas encore appris grand-chose sur moi-même. en fait, je crois qu'il y a un très grand écrivain marocain, Serge Kilito, qui dit il faut partir très loin pour se retrouver. Alors, je crois que c'est à chaque fois un voyage. Je voyage très loin, en fait, pas pour découvrir le monde, mais pour découvrir une partie de moi-même. Alors, le voyage, je crois que ça nous fait découvrir. Il faudrait partir, c'est-à-dire se détacher de soi, de ce qu'on est, de la vie quotidienne, de tous les jours, etc., pour se retrouver avec soi-même. Et donc, chaque voyage est une rencontre avec soi-même.
Ouais. Vous partez toute seule en général ?
Non, au départ, je partais toute seule, mais maintenant, j'aime beaucoup être avec des amis, donc des femmes comme moi. Donc, on est un groupe de femmes, de grandes voyageuses, et puis, on se retrouve entre nous. C'est un rare moment où on est entre nous, on se détache de tout et on part très loin pour découvrir le monde, se retrouver.
Et découvrir une partie de
se
soi.
Voilà.
Exactement. Alors, ces petites parties de vous que vous avez pu découvrir jusqu'ici, qu'est-ce qu'elles vous ont raconté ?
Elles m'ont raconté que quand même, je suis une personne. Je suis devenue, au fur et à mesure, je suis devenue assez compliquée.
C'est-à-dire
que j'ai du mal à me trouver avec des personnes qui n'ont pas ce même travail de construction de soi. Je m'explique. Nous, on traverse la vie et on se transforme. C'est-à-dire qu'on se bonifie un petit peu. Mmh. C'est-à-dire qu'on devient meilleur. Mais malheureusement, dans la vie, il n'y a pas que ce genre de personnes. Il y a des personnes qui commencent bien et qui se dégradent. Pourquoi elles se dégradent ? Parce qu'elles ne font aucun travail sur elles-mêmes. Elles croient que, par exemple, le diplôme, c'est l'objectif ultime. Non, le diplôme n'est pas l'objectif ultime. Le diplôme, il nous ouvre quelques portes, mais c'est à nous d'ouvrir d'autres portes à travers d'autres activités, d'autres activités mentales, d'autres déplacements, mobilité, etc. Alors, dans la vie, on ne tombe pas sur ce type de personnes qui ont la même expérience de la vie, la même ouverture, parce que plus on voyage et plus on s'ouvre, plus on accepte l'autre, plus on oublie nos identités réduites. Et voilà, donc ça nous rend un peu compliqué quand même, parce qu'on cherche des gens qui nous ressemblent un petit peu.
Ouais.
Et c'est très difficile de tomber sur des personnes qui ont la même ouverture d'esprit, qui ont la même acceptation de la différence, qui ont la même vision du monde.
L'acceptation dans tout ça. Vous dites, je suis devenue plus compliquée, mais est-ce que en se bonifiant, on est plus apte à accepter l'autre, sa différence, ses limites aussi, le fait qu'on soit arrivé peut-être à à une maturité que l'autre n'a pas encore pu atteindre.
Mais je parle de ma vie personnelle.
Oui, oui, non.
Dans ma vie personnelle, j'accepte le monde extérieur, c'est-à-dire si je suis à l'extérieur, j'accepte tout le monde. Mais dans ma vie à moi, ma sphère personnelle, je ne peux pas partager ma vie avec une personne qui n'a pas la même ouverture d'esprit.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir avec l'acceptation.
C'est
l'acceptation de l'autre, elle est déjà là, elle est acquise. Mais dans ma petite sphère, je ne peux pas faire entrer dans ma sphère personnelle des personnes qui n'ont pas la même ouverture d'esprit, qui n'ont pas la même acceptation, qui ne partagent pas certaines idées, c'est pas un rejet, tu vois,
ouais.
C'est pas un rejet, parce que la sphère personnelle, quand même, elle reste personnelle.
Intime et personnelle, exactement.
Intime et personnelle, et on ne peut la partager que si on est sûr avec elle ne va pas créer des problèmes, elle ne va pas nous changer notre quotidien.
Ouais. Alors justement, Sana, est-ce qu'il y a un partenaire de vie qui arrive à suivre tous ces critères?
Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, vous parlez de quelqu'un qui partage ma vie.
Et absolument.
Il n'y a pas.
Il n'y a pas.
Non, il n'y a pas. Vous savez, au départ, on est occupé avec les études, avec la première thèse, deuxième thèse. Après, ça devient difficile de vivre cette expérience du partage de l'intime. Parce que la vie, quand même, c'est l'intime. Le partage de l'intime, parce que la vie, c'est la chose la plus précieuse. On a construit quelque chose autour de sa personne et on ne peut confier cette vie, cette construction, qu'à une personne qui partage les mêmes convictions, la même manière de voir. Malheureusement, chez nous, on a toujours le retour de certaines traditions. Par exemple, l'homme chez nous, je ne parle pas de l'homme et de la femme, parce que j'ai aussi des amis hommes qui sont extraordinaires et qui ont les mêmes problèmes aussi dans leur vie de couple, etc. Moi, je suis une personne qui peut-être s'aventure dans le monde, etc., mais qui ne s'aventure pas dans sa vie privée, dans ma petite sphère intime. Je ne peux la partager que si je suis vraiment sûre à 100% que je serai quand même je vais la partager avec une personne qui a le même type de conviction. Et c'est très très rare de tomber sur des personnes qui de l'autre sexe, bien sûr, qui ont la même vision du monde, la même manière de vivre, etc.
C'est une peur de...
Plus on est... vous savez, je vais vous dire la vérité. Plus une femme chez nous, dans le monde arabe en général, plus elle est connue, plus elle fait des études très poussées, etc. Et plus elle fait peur aussi. C'est-à-dire que même les gens n'osent pas s'approcher d'une personne qui est elle-même, elle est
autosuffisante.
C'est-à-dire
elle existe
elle se réalise par elle-même. Parce que dans notre monde arabe, les hommes aiment protéger la femme. Alors que moi, je peux protéger 1000 hommes. Hein, donc moi, je protège mes frères, je protège ma famille, etc. Mes frères, moi, je suis plus forte qu'eux. Bah, je les protège. C'est-à-dire quand ils ont un problème, etc., ils se retournent vers moi. Donc, écoutez, une femme qui est comme ça, elle aura toujours du mal à trouver quelqu'un qui pourrait l'accepter.
Ouais.
Donc, la femme, plus elle fait d'études, plus elle est autonome, et plus elle inquiète l'autre sexe.
Ouais. Alors, vous êtes également professeur universaire, donc vous côtoyez beaucoup de jeunes. De jeunes hommes et de jeunes femmes. Qu'est-ce que vous remarquez de cette génération, justement, par rapport à ça? Est-ce que la jeune femme marocaine a encore besoin de l'homme protecteur? Est-ce que c'est toujours le même schéma qui se répète sous vos yeux?
Alors, je rencontre les deux cas de figure. C'est-à-dire, je rencontre des femmes encore protégées par leur famille. Elles sont dans le système. C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul rêve, c'est de, de se marier, donc les rêves de jeunes filles d'avant. Mais j'ai aussi une autre catégorie de femmes émancipées qui veulent se réaliser et qui veulent vivre leur propre expérience indépendamment de l'homme. Donc j'ai pas mal de, autour de moi, il y a pas mal de jeunes qui ont été mes étudiantes, etc., qui habitent toutes seules, qui se réalisent, qui font des choses intéressantes. Et voilà, donc elles attendent aussi, c'est-à-dire qu'elles sont sur qu'elles ont les mêmes attentes que moi. Alors, moi, je voudrais juste une petite parenthèse, parce que moi, j'ai eu quand même beaucoup de prétendants, etc. Et à un certain moment de ma vie, j'avais dit non, je ne peux plus accepter d'écouter. En fait, parce que la famille, au départ, elle impose, elle dit bon, on donne une chance, etc.
Exact.
Donc, je donnais la chance à beaucoup de personnes. Je les écoutais. Après, je me dis mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire, si je ne fais pas la rencontre moi-même, c'est impossible. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, ni de la famille, ni des amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont voulu me présenter des personnes, etc. À chaque fois, ça ne va pas parce que ça ne va pas parce qu'il y a des composantes qui ne vont pas avec mes propres composantes. Donc c'est une opération chimique. C'est comme une greffe. Une greffe, il faudrait vraiment que le corps qui sera greffé soit compatible avec...
Sinon, il y aura rejet. Et c'est ce qui se passe avec Sana.
Et c'est généralement les rejets des divorces, etc., sont dus à ça. Parce que on force les choses. On fait rencontrer des gens et on croit que c'est ça. Donc moi, je me souviens que je prenais toujours le temps. Je disais non, je dois attendre, je dois voir, je dois... Ouais. Même si la famille n'était pas toujours d'accord, mais je prenais toujours mon temps. Et à la fin, je voyais toujours des choses je ne pouvais pas accepter parce que...
Mais en général, j'imagine que la famille dit de toutes les manières « il a haqqaqti la buddama tlqa l'aib ».
Oui, mais bon, monsieur, c'est pas un problème de ib, un défaut.
Ouais.
C'est pas les défauts, ça, je peux les accepter, les défauts des autres, je peux les accepter. Mais est-ce que cette association va marcher ou pas? Donc moi, je voyais des choses qui n'allaient pas. Par exemple, il y a des personnes que je savais dès le départ que j'allais les écraser. Que j'allais les dominer.
Ouais.
Moi, je n'aime pas cette relation de dominant-dominé, etc. Moi, j'aime une relation d'échange, d'écoute, voilà. Et moi, je savais que j'allais être dominante dans tous les cas. Et alors, je ne me voyais pas dans ce type de relation déséquilibrée.
Sana a grandi comment? Qu'est-ce qui a forgé Sana comme ça? Forte, indépendante.
Alors, oui, moi, j'ai heureusement eu des parents, à qui avec les parents des années 70, 60, 70, etc. C'était des parents très, très émancipés, avec beaucoup d'idées d'ouverture, très modernes. Donc, je suis née dans une famille comme ça, un couple très moderne. Mon père voulait absolument que je fasse que je fasse des études très poussées. Il a tout fait pour que je réussisse. Ma mère aussi voulait que je sois une femme très moderne, très ouverte d'esprit. Même ma grand-mère, j'avais une grand-mère qui n'aimait pas les archaïsmes. Elle aimait la modernité. Et donc, elle aimait beaucoup qu'on se coupe les cheveux, qu'on mette du vernis à ongles. Donc, elle adorait ça. Et donc, ce qui fait qu'on a été bercés dans ce milieu-là, et où on lisait beaucoup, où mon père nous achetait à chacun ses petites revues. Et donc, ils nous achetaient tous, c'est-à-dire des encyclopédies, par exemple, pour développer notre savoir. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour notre formation, la formation de chacun de nous. Et moi, en particulier, comme je suis l'aînée, il m'a poussée. Il me disait, il faut que tu fasses des études. Et au départ, quand j'avais 17 ans, donc il y avait des gens qui venaient demander ma main, etc. Et mon père disait non. Ma fille est encore jeune, je veux qu'elle fasse des études. Donc mon père, un petit peu, au départ, il m'a encouragée à aller le plus loin possible dans les études, voyager. Donc il a toujours rêvé, parce que lui-même, il était un grand voyageur. Et donc il a toujours rêvé pour moi que je fasse des voyages toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé ses rêves et les miens. Et ce qui fait que, et puis on discutait avec, quand il recevait ses amis, généralement du milieu littéraire, etc. On discutait de politique. Et j'étais toujours avec des hommes, avec mon père et avec les hommes. Et on discutait de politique. Et moi, je donnais mon point de vue. Et les amis de mon père rigolaient parce qu'ils trouvaient intéressant que je donne mon point de vue aussi sur la politique. Je leur disais non, je ne suis pas d'accord, etc. Et donc, voilà, j'ai été formée dans ce milieu-là, des gens d'une génération un peu spéciale. Mais après, donc, même mon père a un petit peu changé, parce que la société pousse parfois les gens à changer un peu. Donc mon père me disait, écoute, mais quand même on est dans une société marocaine, il faudrait que tu acceptes certaines choses, que tu te plies à certaines règles. Je disais, ah, je ne peux pas.
C'est trop tard, je suis déjà... c'est pas possible.
Oui, il le savait.
Ouais.
Non, lui, il le savait. Mais Zama qui faisait son travail, parce que ma mère était aussi derrière, elle lui disait, non, il faut qu'elle se case, il faut qu'elle fasse cette expérience, même si ça ne marche pas. Mes tantes dans ma famille, elles me disaient, ouais, fais l'expérience, même un mois. Je disais, non. Ça, c'est la vie n'est pas. Je ne vais pas quand même faire une fêlure dans ma vie juste pour faire une expérience. Je ne veux pas. Si ce n'est pas la bonne personne, je ne fais pas cette expérience. Et voilà. Donc, et toute la famille se mêlait de, parce que comme j'ai de bons rapports avec mes tantes, mes oncles, etc. Donc tout le monde se préoccupait de mon avenir.
De
me voir. Ils voulaient me voir casée avec des enfants. Je disais. C'est pas aussi facile que ça. Donc j'aimerais bien, mais dans ma tête, c'est ma tête qui me pose des problèmes parce que je ne peux pas être avec des gens qui vont me décevoir. Qui vont me décevoir, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui vont me décevoir très vite parce qu'il y a les masques. Les gens au départ disent « oui, je suis émancipée », etc. Mais après ils redeviennent... pire que les ancêtres.
Donc Sana Rouati est trop libre en fait.
Ce mot liberté trop libre dans ma tête.
Oui.
Parce qu'il y a oui mais pas je suis libre dans ma tête, mon corps ne l'est pas. Je ne sais pas, je m'explique.
C'est-à-dire vous n'aimez pas choquer.
Non, je respecte aussi la société. C'est-à-dire, disons, moi, je suis une personne qui vit seule dans un immeuble où il y a des familles, etc. Et je respecte la société. Mais dans ma vie, c'est-à-dire, je ne me permets pas d'avoir des aventures, etc. Parce que je me dis, c'est pas possible de vivre de petites aventures comme ça, passagères.
Vous êtes entière, en fait. C'est ou tout ou rien.
Oui, exactement. Moi, je ne suis pas dans les petites aventures, etc., pas du tout. Je suis dans la recherche de quelque chose qui quelque chose de où je vais réaliser cette plénitude à laquelle je rêve. Mais bon, si je n'arrive pas à la réussir, c'est pas grave, parce que je réussis autre chose.
Mais est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle existe, cette plénitude?
Oui, elle pourrait exister. Mais bon, parfois elle est impossible.
Vous l'avez eu devant les yeux? Vous avez eu un exemple de cette plénitude?
Oui, bien sûr. Mais même deux ou trois exemples, mais c'est impossible. Voilà.
C'est pas impossible. Mais en même temps, peut-être que les exemples qu'on a devant les yeux on ne voit que la jolie partie du couple, non, du duo.
C'est des exemples que je connais des gens depuis longtemps qui vivent très très bien. Et qui vivent cette vie dont je rêve aussi. Mais bon, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont aussi construit ensemble. Parce que dans un couple, Le problème qu'on a dans nos sociétés, c'est que le couple, on croit que le couple doit devenir un, devenir une personne, c'est-à-dire qu'il y ait cette osmose. Eh bien non, parce que c'est ça ce qui tue le couple. Il faudrait que chacun de nous garde sa vie et qu'il y ait une sphère commune, une petite sphère qu'on partage. C'est ça ce qui fait la réussite des couples. Moi, les gens que je connais à l'étranger ou ici, et qui vivent, ils vivent ça. Vraiment, par exemple, moi j'ai des amis à l'étranger qui ont chacun sa vie vraiment autonome. Mm. Chacun a sa vie. Et puis, ils ont un espace de rencontre mental qui est l'espace du couple, où ils partagent des choses. Alors, ici, si on veut faire ça, ça ne marche pas. Mm-hmm. Moi, au départ, je le disais à quelques prétendants, même du milieu universitaire, je leur disais, écoutez, moi, je n'aime pas qu'on envahisse mon espace. Je suis une personne qui tient beaucoup à son espace. Je n'aime pas être dérangée dans mon espace. Mais je pourrais, par exemple, on pourra trouver un espace commun du couple, par exemple. Alors, mes amis rigolaient, me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Je disais, écoutez, parce qu'il y a un espace intime que je tiens à protéger. Il y a, par exemple, j'ai mes recherches, j'ai mes amis. On ne peut pas me dire je n'aime pas ton ami ou tu coupes tes relations avec tes amis. J'ai eu des expériences de tentatives de relations.
J'aime bien de tentatives de relations. Ben oui, maintenant on aboutit, tentatives de relations.
Oui, et les gens, soit il y avait des jalousies, ouais. Parce que à chaque fois où je regardais une personne, que je disais bonjour, etc., il y avait pourquoi tu as regardé, tu connais cette personne. Je dis non, mais je connais des gens parce que je suis prof universitaire, les gens me connaissent. Je ne veux pas, les gens me disent bonjour, je ne peux pas ne pas. Donc, quand je vois ça, j'arrête tout de suite. Uh-huh. Je me dis, ça c'est impossible, parce que ça c'est une domination. Les personnes veulent me dominer, je ne peux pas. On ne peut pas me dominer, c'est impossible. Donc dès le départ, je dis bye bye. Je ne peux pas continuer. Et puis, ou alors, j'ai eu le contraire, c'est-à-dire des gens qui ne réagissent à rien et qui sont complètement indifférents. Et je me disais, l'indifférence, c'est une absence. Mm. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de présence, ni trop d'absence. Il faut qu'il y ait un équilibre dans un couple. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je suis très compliquée.
Ben, sur cette note, on va se dire, sur cette note, Sana, on va se quitter. Merci beaucoup, Lala Sana, de m'avoir ouvert une partie de votre jardin secret aujourd'hui et de nous parler de la femme marocaine d'aujourd'hui que vous êtes. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de vous écouter parler. À très vite, Lala. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.